En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, vous allez entendre Michel Hulin, professeur honoraire de philosophie indienne et comparée à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Il intervenait lors du colloque organisé par la Fondation Ostad Elahi à l'occasion de la 10e journée de la solidarité humaine le 10 septembre 2011 sur le thème « Quelle sagesse pour notre temps ?». Michel Hulin a intitulé son intervention « Orthodoxie et individualisme religieux en Inde ». L'émission que vous allez écouter se divise en deux moments, deux parties. Dans la première et durant une dizaine de minutes, Michel Hulin développe son propos sur la sagesse dans la tradition indienne. Dans la seconde, il répond à quelques questions posées par le journaliste Jacques Pogam.
Je commencerai par une remarque toute simple. L'idée même d'un colloque comme celui qui nous réunit aujourd'hui est difficilement imaginable dans le monde indien. C'est-à-dire chercher une sagesse pour notre temps, avec comme présupposé en arrière-plan l'idée d'un déclin du religieux et des normes qui lui sont liées en morale, en politique, etc. Parce qu'en Inde, on ne peut pas parler aujourd'hui, me semble-t-il, de déclin du religieux. L'hindouisme paraît aussi vivant qu'il ne l'a jamais été. Il suffit de vivre un peu en Inde. Vous voyez partout, que ce soit dans les villages, les villes, une fréquentation constante des temples. Vous voyez des pèlerinages qui réunissent littéralement des millions de gens, comme la Kumbh Mela par exemple. Vous voyez des maîtres spirituels qui parlent non seulement à la télévision, mais aussi en plein air, dans des stades, des places publiques, devant des centaines et des milliers de gens. Et partout, il y a une vie religieuse tout à fait concrète, hein, qui n'est pas uniformisée. Les gens vont au temple plus ou moins selon leur disponibilité, selon leur humeur, à toute heure de la journée. On fréquente tel ou tel temple parce qu'on a une affinité plus ou moins forte avec la divinité ou la forme de divinité qui est associée. Et bon, on peut même pas séparer les gens en grandes obédiences, genre les Vishnouites, les Shivaïtes, les partisans de la déesse, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, les recoupements sont multiples. Les gens, alternativement, fréquentent les temples des uns et des autres. Hein. Et puis, ça n'est pas non plus une question de génération. On voit qu'il n'y a pas de clivage à cet égard entre les générations plus anciennes et puis les jeunes qui ne manifestent pas de rupture sur ce point. Alors, quelle est l'origine possible de cette situation? Comment se fait-il que les choses n'ont pas évolué dans le monde indien de la même manière qu'elles ont évolué dans l'Occident chrétien, pour aller vite? En fait, on constate en effet que nous n'avons pas du tout eu en Inde l'équivalent des grands affrontements historiques entre le magistère religieux et puis, disons, les velléités d'indépendance d'un esprit qui se voudrait indépendant des dogmes, d'un esprit laïque, d'un esprit scientifique, etc. On chercherait en vain l'équivalent des démêlés de Galilée avec l'Inquisition, ou plus près de nous, les problèmes de Darwin avec aussi le dogme religieux. D'une manière générale, on constate, l'historien des religions voit devant ses yeux se dérouler une histoire certes confuse, complexe, extrêmement complexe, mais dans l'ensemble dominé par une relative tolérance. Bien sûr, on peut toujours trouver des exemples locaux de persécution, mais dans l'ensemble, les cultes ont tant bien que mal cohabité les uns avec les autres, sans que cela fasse de déchirure complète. On a même dit, par exemple, que l'idée d'hérésie était très difficilement traductible dans les langues indiennes, parce que le foisonnement des sectes, des interprétations personnelles ou de groupes de tel ou tel grand courant religieux n'ont cessé d'apparaître, de se multiplier, d'interférer les unes avec les autres au cours des âges, de sorte que nous avons une espèce de, ce qui peut évidemment être vu négativement comme un conglomérat de pratiques et de croyances qui, tout en ayant fondamentalement un air de famille, dans le détail, diffèrent les unes des autres d'une manière qui, pour nous, Européens, peut paraître parfois choquante. Enfin, évidemment, le grand avantage de cela, c'est qu'il y a eu une extraordinaire souplesse de l'hindouisme qui ne s'est pas défini dans des dogmes absolument rigides et définitifs et qui, en fonction de ça, n'a pas eu non plus l'idée de construire une structure, une église, un magistère, de définir les conditions d'une parole d'autorité à laquelle ensuite les fidèles devraient se soumettre. Il n'y a jamais eu d'équivalent du pape dans l'hindouisme. Tout au plus, aujourd'hui, et déjà depuis un certain nombre de siècles, nous avons quelques personnages qu'on appelle les Shankaracharya, les sortes de descendants spirituels de l'illustre maître Shankara au 8e siècle, qui sont les supérieurs de certains monastères, il y en a 4 ou 5 en Inde. Ce sont les seuls personnages qui détiennent une certaine autorité spirituelle, mais relative. Oui, en plus, ils sont 4 ou 5, ils sont pas toujours tout à fait d'accord entre eux, de sorte que, eh bien, ils n'ont pas véritablement de pouvoir séculier quelconque. Alors, à l'origine de ça, il faudrait évidemment remonter très loin. Et pour court-circuiter un petit peu toute cette historique que j'ai pas le temps de faire, je résumerai les choses en disant, dans le monde indien traditionnel, on peut pas parler d'orthodoxie, mais en revanche, on peut parler d'orthopraxie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'en effet, ce qui a été l'arête de la société hindoue pendant des millénaires, ça a été une certaine structuration de cette société, ce qu'on appelle les varnas, quelque chose qui correspond un peu à ce que, dans la France de l'Ancien Régime, on appelait les ordres, et le clergé, la noblesse, le tiers-état, il y en a un de plus en Inde, eux-mêmes subdivisés en groupes endogames et spécialisés dans une profession qu'on appelle les castes, et le système étant essentiellement hiérarchisé. La base de cela, c'est ce qu'on appelle le Veda. Très grossièrement, on peut dire que le Veda joue l'équivalent de la Bible de notre monde ou du Coran. C'est le livre sacré. Cela dit, il est surtout interprété par les brahmanes, sa rédaction s'est étendue sur des centaines d'années, et puis, en plus, d'autres textes sont venus interférer avec lui. Alors, le phénomène important que je tiens quand même à dire pour expliquer ce qui a fait pendant à cette orthopraxie qui peut paraître rigide et contraignante, c'est que, très vite, peut-être même 1000 ans avant notre ère, on a vu surgir une forme de religiosité tout à fait différente du Veda, qui est liée à la prédominance des brahmanes, qui est liée au sacrifice, à l'orthodoxie, etc. Ce qu'on appelle les renonçants, c'est-à-dire des gens qui sont en rupture avec cette religion très liée à la famille, à la caste, au rite, etc. et qui donc partent par les grands chemins, soit solitaires, soit se mettre à l'école d'un maître, fondent des monastères, etc. Des gens qui cherchent véritablement une liberté, qui cherchent une spiritualité proprement personnelle, qui fasse contraste avec l'enfermement que la religion védique propose aux gens. La religion védique, c'est un petit peu l'archétype de ce que Bergson appelait la religion close ou la société close. Tandis que cette dimension de l'ouvert, eh bien, ce sont les renonçants, les moines, les religieux qui existent encore aujourd'hui. Il y a des millions et des millions de personnages qu'on appelle des sadhus qui sillonnent les routes de l'Inde partout. Et on explique l'hindouisme concret d'aujourd'hui par une espèce de rencontre, de coalescence entre ces deux pôles. Vous voyez, le pôle du ritualisme, du sacrifice, de la hiérarchie, etc. Et puis, les valeurs nouvelles, au premier rang desquelles il faudrait longuement parler de la non-violence, qui ont été l'apanage des renaissants. L'hindouisme concret, c'est ça, c'est la symbiose, la synthèse elle-même complexe et jamais tout à fait achevée de ces deux rencontres. Au carrefour des deux, on trouve des choses que l'on appelle la secte, c'est-à-dire des mouvements religieux plus particuliers qui définissent leur propre morale à l'intérieur du cadre général de l'hindouisme, et puis des représentations comme celle du circuit des renaissances et de la délivrance. D'autres formes aussi, ce qu'on appelle la bhakti, par exemple, c'est-à-dire la religion, pas sentimentale, mais affective. Aujourd'hui encore, on rencontre en Inde des manifestations d'exubérance religieuse qui n'ont guère leur équivalent chez nous, à la rigueur, un peu chez les charismatiques chrétiens, mais pas vraiment du même ordre. Également, une représentation comme celle du Kali Yuga, c'est-à-dire de l'âge de décadence où nous sommes censés nous trouver, va expliquer beaucoup de choses sur le plan intellectuel pour expliquer l'écart énorme entre la norme et le fait, et l'idée qu'on doit introduire des comportements, des valeurs qui n'existaient peut-être pas jadis, mais qui sont rendues nécessaires par la dureté des temps. Donc je termine en 2 phrases. Un hindouisme, vous voyez, polymorphe, d'une souplesse absolument incroyable, qui en tant que telle a enduré toutes les secousses, toutes les révolutions, les a digérées, sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de contestations, ce qui quand même peut-être menace, ou en tout cas un signal de changement profond possible dans l'hindouisme, c'est l'impact de la civilisation d'abord européenne et ensuite mondiale, de la technique, des communications, du règne de l'argent, etc. Là, on constate peut-être qu'il y a une certaine érosion dans certaines parties de la société indienne, mais qui pour le moment reste encore très minoritaire. On est frappé de voir que des scientifiques de haute volée sont en même temps des dévots de telle ou telle forme particulière d'une divinité, s'arrangent, parce que les conceptions indiennes du temps, de l'espace, etc., sont d'une grande souplesse, eh bien, pour digérer en quelque sorte les apports de la physique quantique, de la cosmologie, etc., et ils font coexister tout ça très bien avec un culte à Vishnu, etc.
Alors je pense que Bernard Bourgeois va être content, puisque là on a quand même l'affirmation de la permanence d'une sagesse et non pas de quelque chose de tout à fait contingent. Et je voudrais vous poser une question très concrète, puisque le thème c'est « Quelle sagesse pour notre temps ?» Quel pourrait être l'apport essentiel de l'hindouisme à une sagesse pour notre temps ? Est-ce qu'il faut aller le chercher du côté de la théorie de la souffrance, de la théorie du désir, de la non-violence ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre ? Évidemment, c'est une question à 1000 francs. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, en valeur comme apport le plus fort de l'hindouisme ?
Je pense que c'est quand même la tradition de méditation. La tradition qui est très, comment dire, parallèle et complémentaire de l'ensemble qui est le plus visible, qui sont les pratiques dévotionnelles, multiples, spectaculaires, etc. À côté de ça, il y a une tradition de méditation qui n'est pas uniquement l'apanage de personnages un peu folkloriques comme des yogins de l'Himalaya ou des choses comme ça, qui est extrêmement répandu. Il y a quantité de gens qui, même des hommes d'affaires, etc., qui trouvent moyen chaque matin, par exemple, de réciter quelques formules védiques et tout ça, et surtout de méditer. Et ils combinent cela avec des pratiques plus proprement religieuses. Beaucoup de gens ne vont jamais au temple. Beaucoup de brahmanes vont très rarement au temple, sur quelques occasions dans l'année, mais ils ont chez eux tout un hôtel où il y a diverses représentations plus ou moins anthropomorphiques de religion. Et leur méditation est tantôt plus abstraite, vers le Brahman, par exemple, l'Atman, le Brahman, et tantôt, au contraire, elle prend pour support des murtis, c'est-à-dire des figurations religieuses concrètes. C'est l'idée que c'est pas trop les dogmes qui importent, la fidélité aux dogmes, ni même tellement le respect de certaines normes dans la conduite, lesquelles sont plutôt dictées d'avance par la caste à laquelle on appartient, que une certaine manière de vivre le rôle qu'on est appelé à jouer dans le monde. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, par exemple, reste peut-être le texte le plus moderne, le plus utilisable par eux, parce qu'elle n'a pas d'obédience sectaire très rigide. Elle consiste à dire que chacun doit faire jouer le rôle que la naissance, etc., l'a amené à jouer en soi, mais dans un autre esprit, dans un esprit de détachement. Dans le vocabulaire de la Gita, on dit « sans rechercher pour lui les bénéfices de l'action qu'il entreprend ».
Est-ce que vous avez l'impression que cette habitude de la méditation donne aux pratiquants de cette religion une perception du temps peut-être plus riche que la nôtre?
En tout cas, certainement différente. En tout cas, certainement différente. D'ailleurs, sur le plan spéculatif, on peut dire que les philosophies indiennes sont parties de l'idée, un peu comme les Grecs, vous voyez, du temps circulaire. Et puis, très souvent, elles associent la temporalité en tant que telle à voit en elle un des visages de l'ignorance métaphysique, ou de l'illusion, ou de la maya. Dans multitude de mythes, eh bien, la percée au-delà des apparences, la percée vers la vérité, est liée à des récits mettant en valeur la fragilité, l'insubstantialité, l'irréalité ultime du temps. Donc ça joue un rôle très important. On est toujours même, par exemple, frappé par des gens comme ça, sur des places de marché, des cours de temple au milieu du tohu-bohu, du vacarme invraisemblable. Ils sont là comme ça. Ils prennent pas une pause, je crois pas. Il y a des gens tous les jours, comme ça, ils réfléchissent, ils méditent, ils parlent éventuellement dans un dialogue silencieux avec leur Dieu. Et puis après, voilà, une fois que c'est terminé, avec le sourire, ils se remettent dans le train-train.
Mais autrement.
Mais autrement, ouais. C'est ça. Dans le monde, mais en même temps avec un détachement subtil.
Alors, vu d'ici, ce que l'on retient le plus souvent, c'est la non-violence. En quoi la non-violence dans l'hindouisme est-elle différente de la non-violence telle que nous, nous pouvons la percevoir dans des...
Finalement, historiquement, originellement, elle est quand même très très différente. En fait, on pense que c'est avant tout, au départ, une réaction contre le caractère, lui, violent, voire sanglant, de la religion védique, qui est essentiellement une religion sacrificielle, où le sang des victimes sacrificielles coulait en abondance. Il y a même des gens qui pensent que c'est voilé, mais que peut-être à l'origine, le sacrifice humain, dans des temps certes très anciens, a été pratiqué. Donc au départ, c'est l'idée de gens qui ne veulent plus participer à cela, qui veulent en quelque sorte se garder les mains propres, et au sens plus général du terme, ne faire souffrir aucun être. D'où, évidemment, parfois des étrangetés qu'on rencontre, par exemple, chez les sectes des Jains, qui sont obsédés par l'idée de faire souffrir ou de tuer le moindre animalcule. Donc, ils font bouillir l'eau, ils mettent un masque, les moines mettent un masque devant le visage, ils ont une espèce de balai qu'ils promènent devant eux parce qu'ils ont peur des crânes. Ah oui, absolument. C'est pas le tout venant des fidèles qui fait ça, évidemment, ce sont certains moines. Hein. Mais ils sont le modèle. Sont le modèle des autres. Même chose, ces fameux Shankaracharya dont je parlais tout à l'heure, ces espèces de maîtres qui ont une audience assez large, on est quelquefois frappé de voir que, quand ils interviennent dans un débat de société, comme nous dirions, ils ne le font pas tellement pour des questions proprement humaines, que sais-je, pas moi, la procréation assistée, l'avortement, la peine de mort, etc. Ils le font quelquefois, mais on sent que c'est pas ça qui les motive. Alors là, par contre, s'il est question d'introduire des abattoirs, modernes, etc., alors là, c'est la levée de boucliers, parce que la vache, pour des raisons qui seraient trop longues de développer ici, un statut particulier dans l'hindouisme, là, ils prennent feu et flamme et éventuellement, ils vont déchaîner des foules de centaines de milliers de personnes, plus ou moins fanatisées, d'ailleurs.
Hein. Mais comment répondent-ils à la question des castes par rapport à la violence? Parce que la non-violence, c'est évidemment... Quelque chose qui paraît d'une sagesse extrême, mais est-ce que ça ne repose pas sur quelque chose d'extrêmement violent qui est des castes?
Ça, c'est un point très important. Au départ, la non-violence, comme je disais à l'instant, c'est l'apanage de ce qu'on appelle les renonçants, les sannyasins, les gens qui laissent tout tomber. Ça veut dire qu'ils laissent vraiment tomber leur appartenance de caste. Un brahman n'est plus... il se dépouille de tous ses ornements de caste, il devient anonyme, change de nom, il s'en va errer à des centaines de kilomètres de chez lui, etc. Il vit de mendicité religieuse, et ainsi de suite. Mais ce qui est paradoxal pour nous, c'est que cette non-violence, d'une certaine manière, est restée une espèce d'idéal personnel, éventuellement partagé par un certain nombre de sectes, mais... comme Hegel l'avait déjà noté, c'est pas tellement réfléchi sur la société séculière en tant que telle. C'est-à-dire que Bergson aussi le dit, le mysticisme hindou n'est pas exactement, sauf aujourd'hui peut-être, mais longtemps il n'a pas été du tout un mysticisme actif. C'est-à-dire que l'hindouisme n'a pas créé beaucoup d'institutions charitables, d'hospices, etc., comme a pu faire le christianisme. Les gens font quand même chercher le salut, si on peut employer ce terme, ou délivrance, disons, d'abord pour eux-mêmes, éventuellement ensuite pour leurs disciples, pour les gens auxquels ils s'adressaient. Ils n'ont jamais eu l'ambition de réformer la société tout entière dans le sens de la non-violence. Ça apparaît avec Gandhi, par exemple.
Mais est-ce que ça explique que finalement l'hindouisme ait beaucoup moins d'écho en Occident que le bouddhisme, par exemple? Moindre pas d'un éminent bouddhiste est connu en France, disséqué, alors que l'hindouisme, faites un petit sondage dans la rue, je pense que personne n'est capable de... Comment vous l'expliquez?
L'hindouisme, d'abord, c'est une mosaïque absolument invraisemblable, vous voyez, de croyances, de pratiques multiples qui...
Oui, mais en fait, derrière ça, il y a quand même, vous nous le dites, il y a une démarche, il y a une perception de la vie, de l'univers.
Oui, absolument, mais qui est très charnelle, hein, qui est très liée à... territoire, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on pense que le bouddhisme s'est effondré avec les invasions musulmanes au Xe siècle, c'est qu'il reposait d'une part sur la dualité entre les laïcs, les non-moines et puis les moines étant totalement dépendants des laïcs pour leur subsistance, etc., que d'autre part, il avait ce qu'on appelait des viharas, c'est-à-dire des espèces de grands monastères qui étaient en même temps des universités, lesquelles ont péri très vite. Alors que le brahmanisme ou l'hindouisme, qui en est la forme, disons, la plus large, ben c'est dans le terroir, vous voyez, c'est au niveau du village, c'est une structure tout à fait indissociable de la vie sociale la plus élémentaire, à cette différence près qu'il n'est pas applicable à l'extérieur. Ou alors c'est une caricature. Je pense par exemple à la société Hare Krishna, qui est un petit peu décadente aujourd'hui, mais qui, au temps de sa splendeur en France et ailleurs, en Europe, essayait de reproduire de manière mimétique la société hindoue, avec pas tellement les castes, mais tous les rites d'initiation, de mariage, qui essayait de conserver l'essentiel du concret de l'hindouisme en l'appliquant, en le transposant dans un cadre occidental, ce qui donnait évidemment un mélange très, très
étonnant,
étrange, oui. Détonnant. Oui.
Michel Hulin, merci. On reviendra sur tout cela pendant le débat. Je crois que vous pouvez l'applaudir.
Ce colloque « Quelle sagesse pour notre temps » organisé par la Fondation Ostad et Laï s'est tenu sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques en partenariat avec Le Monde des religions et Canal Académie à la Fondation Simone et Sino Del Duca à Paris. Sur Canal Académie, vous pourrez entendre l'intégralité des interventions de ce colloque. Elles seront diffusées au fur et à mesure des mois qui viennent. Vous pouvez aussi écouter une émission avec le philosophe Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques qui présente ce colloque et surtout qui explique pourquoi notre époque n'est pas, selon lui, propice à trouver la sagesse. Voici les coordonnées de la Fondation Ostad et Laï, éthique et solidarité humaine, une fondation reconnue d'utilité publique. Adresse postale 59 avenue Victor Hugo, 75 016 Paris. Téléphone 01 47 27 14 89, adresse courriel info@fondationostadelai.fr et le site internet à consulter www.fondationostadelai.fr.